présenté par Eve Martin.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'Amphi, l'émission étudiante de Radio Alpa. Pardonnez-moi pour le retard, je me suis mal organisée. Ce soir, on va parler du Velvet Underground et puis on parlera aussi des Cahiers d'Esther de Riyad Satouf. Je vous propose de démarrer cette émission en écoutant donc Clémentine de Maol.
When the room is spinning and the words aren't sticking, and the radio's on a better runaway model with a face like sin and a hat like a James Joyce novel, saying sister, sister, how I missed you, missed you. Let's go wrist to wrist and take the skin off of a blister. If you're a rock star, porn star, superstar, doesn't matter what you are, get yourself a good car, get out of here. Well, put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. Put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. Drivers got me.
names to fill two double barrels. He spits out, breathes out, only smokes carols. And he's refreshing the world in mind, body and spirit. Mind, body and spirit, you better hear it and fear it. Ah, that's the spirit. Saying, sister, sister, how I missed you, missed you. Let's go wrist to wrist and take the skin off of my sister. If you're a rock star, porn star, superstar, doesn't matter what you are, get yourself a good car, get out of here. Yeah. Put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. Put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. Got names to fill two double barrels. He spits out, breathes out, only smokes carols. And he's refreshing the world in mind, body and spirit. Mind, body and spirit, you better hear it and fear it. Ah, that's the spirit. Saying sister, sister, how I missed you, missed you. Let's go wrist to wrist and take the skin off of a blister. If you're a rock star, porn star, superstar, doesn't matter what you are, get yourself a good car, get out of here. Yeah. Put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. Put the boys in the better land. You're always talking about those boys in the better land. The boys in a better land.
Écoutez Boys in the Better Land de Fontaines D.C. Et comme je l'ai dit dans l'introduction, donc, on parle aujourd'hui du Velvet Underground. C'est un groupe qui n'a jamais vraiment été populaire à son époque, mais il a changé la musique pour toujours. Formé au milieu des années 60 à New York, autour de Lou Reed et John Cale, le Velvet Underground va devenir l'un des groupes les plus influents de l'histoire du rock, malgré des ventes très faibles au départ. Pour comprendre leur importance, il faut se replonger dans le contexte de l'époque. On est en pleine explosion du rock psychédélique, avec des groupes qui parlent d'amour, de paix, de rêve, mais le Velvet prend un chemin radicalement opposé. Leur musique parle de drogue, de marginalité, de sexualité, de solitude, de nombreux sujets sombres, crus, rarement abordés à l'époque. Le groupe se fait remarquer très tôt par Andy Warhol, figure majeure du pop art. Warhol devient le producteur et leur mentor. Il les intègre à son univers artistique, la Factory, et leur apporte une visibilité nouvelle. C'est lui aussi qui impose la chanteuse allemande Nico, dont la voix froide et distante va marquer profondément leur premier album. En 1967, sort The Velvet Underground and Nico, reconnaissable à sa célèbre banane dessinée par Warhol. Cet album est aujourd'hui considéré comme un chef-d'œuvre, mais à l'époque, il passe presque inaperçu. Pourtant, il contient des morceaux devenus mythiques comme Heroin, I'm Waiting for the Man ou Sunday Morning. Ce qui frappe dans cet album, c'est le contraste entre la douceur apparente de certaines mélodies et la dureté des textes. Par exemple, Héroïne ne glorifie pas la drogue, mais décrit de manière presque clinique ses effets. Musicalement, le groupe expérimente beaucoup, bruit, répétition, dissonance, une approche très avant-gardiste, influencée notamment par les idées de John Cale. Après ce premier album, Nico quitte le groupe et le Velvet continue avec une orientation encore plus expérimentale. En 1968 sort White Light, White Heat, un disque beaucoup plus brut, plus agressif, presque chaotique. C'est un album difficile d'accès mais qui influencera énormément le punk et le rock alternatif. Des tensions apparaissent alors entre Lou Reed et John Cale. Le premier veut aller vers des chansons plus structurées tandis que le second reste attaché à une approche expérimentale. Finalement, John Cale quitte le groupe. Le Velvet Underground se transforme alors. Avec l'album The Velvet Underground, le groupe propose quelque chose de beaucoup plus apaisé, presque intimiste. Des chansons comme Pale Blue Eyes ou Candy Says montrent une sensibilité nouvelle, plus mélodique, plus émotionnelle. Mais malgré cette évolution, le succès commercial n'est toujours pas au rendez-vous. En 1970 sort Load, avec des titres plus accessibles comme Sweet Jane ou Rock'n'Roll, et c'est sans doute leur album le plus grand public. Pourtant, Lou Reed quitte le groupe peu après sa sortie. Le Velvet Underground continue brièvement sans lui, mais le groupe s'éteint peu à peu au début des années 70. Sur le moment, on pourrait croire à un échec, mais c'est là que leur histoire devient fascinante. Car si le Velvet Underground n'a pas marqué son époque en termes de vente, il a profondément influencé des générations d'artistes. On dit souvent que peu de gens ont acheté leur premier album, mais que tous ceux qui l'ont écouté ont créé un groupe. Leur influence est immense, on la retrouve dans le punk, le rock alternatif, l'indie, le noise. Des artistes comme David Bowie, Patti Smith ou encore Kurt Cobain ont revendiqué l'héritage du Velvet Underground. Pourquoi une telle influence ? D'abord, c'est parce qu'ils ont osé parler de sujets tabous, sans filtre. Ensuite, parce qu'ils ont repoussé les limites du son en expérimentant des textures, des structures inédites. Enfin, parce qu'ils ont prouvé qu'on pouvait faire de la musique sincère, personnelle, sans chercher à plaire à tout prix. Aujourd'hui, le Velvet Underground est considéré comme un groupe culte. Leur musique continue d'être redécouverte par des nouvelles générations. Et même si leur carrière a été courte et chaotique, leur impact est indéniable. En conclusion, le Velvet, c'est un paradoxe. Un groupe discret, presque invisible à son époque, mais devenu incontournable avec le temps. Une preuve que l'influence ne se mesure pas toujours en succès immédiat, mais parfois en héritage durable. Je vous propose donc d'écouter Pale Blue Eyes du Velvet Underground. Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy. But mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. Linger on. Your pale blue eyes. Thought of you as my mountaintop. Thought of you as my peak. Thought of you as everything I've had but couldn't keep. I've had but couldn't keep. Linger on.
your pale blue eyes linger on. Make the world as pure and strange as what I see, I'd put you in the mirror I put in front of me, I put in front of
l'Amphi sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Nous venons d'écouter I Bet You Look Good on the Dance Floors d'Arctic Monkeys, pardon. On va marquer une pause musicale après laquelle je vous parlerai de cette fameuse BD dans laquelle Riyad Satouf suit cette fameuse Esther de ses 9 à 18 ans. Voici California de Mylène Farmer.
ما بتلجر وديري مزية محل نسى كراني كولي زاد عليا الهم والحمادية كي ندير نشوفك راكي طولي يا ماما ويا ماما شاطرة كيف الخرجات حواس اللطويات يا ماما ويا ماما شاطرة كيف الخرجات حواس اللطويات يا فاطمة بتلجر وديري مزية محل نسى كراني كولي زاد عليا الهم والحمادية كي ندير نشوفك راكي طولي يا ماما ويا ماما شاطرة كيف الخرجات حواس اللطويات يا ماما ويا ماما شاطرة كيف الخرجات حواس اللطويات عليا مولات الحزام وعطاتني رنديفو في لاكورنيش البحر هي جوهر في اللي شافها هاد الليلة محلى نساها جاوبت عليا مولات الحزام وعطاتني رنديفو في لاكورنيش البحر هي جوهر في اللي شافها هاد الليلة محلى نساها يا ماما ويا ماما شاطرة كيف الخرجات حواس البطويات يا ماما ويا ماما شاطرة كيف الخرجات حواس البطويات في حفلة
Afla, je ne saurais pas le prononcer mieux que ça, pardon, de Acide Arabe et Sofiane Saïdi. J'aimerais vous parler d'une bande dessinée un peu particulière, comme je vous l'ai dit en introduction. Une bande dessinée qui ne raconte ni aventures fantastiques, ni super-héros, ni grandes épopées historiques. Une bande dessinée qui parle d'une enfant, de son quotidien, de ses copines, de l'école, de sa famille, de ses goûts, de ses colères. Cette bande dessinée, c'est les Cahiers d'Esther de Riyad Satouf. À première vue, le concept est simple. Chaque année, Riyad Satouf rencontre Esther, une jeune fille, et retranscrit en bande dessinée ce qu'elle lui raconte de sa vie. Le projet commence lorsqu'elle a 9 ans et il la suit jusqu'à ses 18 ans. Une sorte de chronique annuelle de l'enfance et de l'adolescence contemporaine. Simple, donc, et pourtant, c'est précisément dans cette simplicité que réside toute la force de l'œuvre. Ce qui fascine d'abord, c'est le regard, un regard d'enfant sur le monde des adultes. Esther parle sans filtre, elle raconte ce qu'elle voit, ce qu'elle entend, ce qu'elle comprend ou croit comprendre. Elle parle de ses amitiés, de ses disputes, des garçons, des réseaux sociaux, des inégalités à l'école, des professeurs, de la politique parfois, des attentats, des débats qui traversent la société. Et à travers ces mots, on découvre une radiographie étonnamment précise de la France des années 2010 et 2020. Ce n'est pas une analyse sociologique, ce n'est pas un essai politique, c'est un témoignage brut, spontané. Et c'est précisément ce qui le rend si puissant. Riyad Sattouf ne corrige pas Esther, il ne la moralise pas, il ne la caricature pas, il retranscrit, il met en scène, il encadre son propos par le dessin, mais il laisse sa voix intacte. Ce qui frappe aussi, c'est l'authenticité. On a l'impression d'entendre une vraie enfant parler, avec ses exagérations, ses contradictions, ses jugements parfois abrupts. Esther peut être drôle, injuste, naïve, lucide, touchante. Elle peut admirer quelqu'un et le détester le lendemain. Elle peut affirmer quelque chose avec certitude, puis changer d'avis quelques pages plus tard. Elle est humaine. Et c'est peut-être cela aussi la réussite majeure de cette bande dessinée. Elle capture la complexité de la construction d'une personnalité. Au fil des tomes, on voit Esther grandir et avec elle, on voit émerger des préoccupations nouvelles. Au début, ce sont les histoires de cours de récréation, qui est la populaire, qui ne l'est pas, les vêtements à la mode, les dessins animés, les disputes entre copines. Puis arrivent les réseaux sociaux, l'image de soi, le regard des autres, le corps qui change, les premiers amours, les premières humiliations aussi. Plus tard encore, apparaissent des questions plus larges, l'actualité, les débats de société, les tensions politiques. Esther répète parfois ce qu'elle entend chez elle, à la télévision ou à l'école. Et c'est là que l'œuvre devient fascinante. Elle montre comment les enfants absorbent le monde des adultes. On réalise à quel point rien ne leur échappe. Les cahiers d'Esther, ce n'est pas seulement le portrait d'une jeune fille, c'est le portrait d'une génération. Une génération qui grandit avec les réseaux sociaux, avec l'omniprésence des écrans, avec une conscience très précoce de l'image et de la popularité. Une génération exposée en permanence au regard des autres. Esther parle beaucoup de pression sociale, de la peur d'être exclue, de l'obsession d'être cool. Et en lisant ces pages, on ne peut s'empêcher de penser à notre propre adolescence, même si les contextes diffèrent, les mécanismes restent les mêmes, le besoin d'appartenance, la peur du rejet, la construction de l'identité. Mais ce qui rend la bande dessinée encore plus intéressante, c'est qu'elle ne cherche jamais à idéaliser l'enfance. On a parfois tendance à voir l'enfance comme une période innocente, douce, protégée. Les cahiers d'Esther montrent autre chose, la cruauté des enfants entre eux, la violence symbolique des mots, les hiérarchies implicites. La cour de récréation devient un microcosme social, il y a les populaires, les invisibles, les rejetés, il y a les codes à respecter, les tendances à suivre, on y retrouve en miniature les dynamiques du monde adulte. C'est là que Sattouf excelle, à travers le récit d'une enfant, il donne à voir toute une société. Son dessin, volontairement simple et presque épuré, renforce cette impression de sincérité. Les couleurs sont souvent douces, les traits expressifs, mais jamais surchargés. L'attention est portée sur les mots, sur les situations. Il y a beaucoup d'humour aussi. Un humour parfois tendre, parfois grinçant. On rit des excès d'Esther, de ses formules radicales, de ses indignations. Mais ce rire n'est jamais moqueur, il est complice. On rit parce qu'on reconnaît quelque chose de vrai. La structure même de l'œuvre est intéressante, chaque tome correspond à une année. On avance dans le temps, on voit les évolutions, on voit les goûts qui changent, les opinions qui évoluent, les certitudes qui vacillent. C'est presque une expérience sociale en temps réel. Et puis il y a une dimension plus profonde, celle du passage à l'âge adulte. Au fil des années, l'insouciance se fissure, les enjeux deviennent plus sérieux, les rêves se confrontent à la réalité, on sent apparaître des doutes, des inquiétudes, des prises de conscience. Lire les cahiers d'Esther, c'est accepter de regarder quelqu'un grandir. Et cela nous renvoie inévitablement à notre propre évolution. On se souvient de nos propres contradictions, de nos propres excès, de nos propres maladresses. On se reconnaît dans certaines scènes et on est parfois surpris d'être touché par une réflexion qui semble pourtant simple. C'est là toute la subtilité de l'œuvre, sous son apparente légèreté. Elle aborde des thèmes profonds, l'identité, la pression sociale, la famille, la politique, les inégalités, la place des femmes, l'image de soi, sans jamais devenir pesante. Riyad Sattouf réussit à maintenir un équilibre délicat, laisser parler une enfant tout en permettant au lecteur adulte de lire entre les lignes. En refermant les cahiers d'Esther, on ne se dit pas seulement qu'on a lu une bande dessinée, on a l'impression d'avoir observé un fragment de la société, d'avoir assisté à la construction d'un regard sur le monde, et peut-être que c'est cela la grande réussite de cette œuvre. Elle nous rappelle que chaque génération grandit dans un contexte particulier, mais que les questions fondamentales restent les mêmes. Qui suis-je ? Comment être aimé ? Comment trouver ma place ? Les cahiers d'Esther n'apportent pas de réponse définitive, mais ils posent les bonnes questions et ils le font avec une honnêteté rare. Finalement, cette bande dessinée nous montre que grandir n'est pas un processus linéaire, c'est un chemin fait d'essais, d'erreurs, de certitudes et de doutes. C'est une transformation progressive, parfois invisible, parfois brutale. En suivant Esther, pendant presque une décennie, Riyad Satouf nous offre quelque chose de précieux, le temps. Le temps de voir évoluer une voix, le temps de mesurer les changements, le temps de comprendre que derrière chaque adulte, il y a un enfant qui a essayé de comprendre le monde. Et c'est sans doute pour cela que les cahiers d'Esther marquent autant, parce qu'en racontant l'histoire d'une seule jeune fille, ils racontent à peu près la nôtre. C'est la fin de cette émission. On vient d'écouter Working Men's Club, The Last One. Vous pourrez réécouter cette émission en rediffusion lundi de 9h à 10h sur les ondes de Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Et sinon, en podcast sur Radio Alpa ou sur votre plateforme préférée. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à mardi.
Présenté par Eve Bartholomew.